Deltic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. En ce début d'année, nous vous proposons une rencontre dans ce nouveau numéro du magazine Idées. Une rencontre avec Georges Kiègemann, qui fut un des grands avocats français. Né à Paris en 1932, de parents juifs polonais illettrés qui ont fui la misère, il est devenu au fil des années un ténor du barreau, comme on dit, et un ministre de François Mitterrand. Avec la journaliste Vanessa Schneider, il vient d'écrire un livre de souvenirs qui s'intitule « L'homme qui voulait être aimé ». Nous sommes allés le voir chez lui, au cœur de Paris. Bonjour Georges Kiègemann.
Bonjour, très heureux d'être reçu par vous.
Georges Kiègemann, vos parents sont arrivés en France, je crois, en 1931.
Oui.
Juif polonais, vous êtes né en 1932.
Oui, j'aime à préciser que c'est en août 32 pour montrer que je suis né, mais que j'étais conçu en France.
Vous avez été conçu en France et vous avez connu ce que l'on appelle la misère.
La misère est peut-être un mot trop tragique, mais la pauvreté certainement.
Oui, parce que vos parents sont arrivés en France, à Paris, sans moyens.
Alors, ils sont arrivés en France sans moyens, et surtout, mon père a abandonné ma mère très vite, et ma mère n'avait non seulement aucun bagage intellectuel, mais même aucune formation professionnelle. Donc, je suppose qu'on a survécu à l'aide de plein de petits expédients. Et vraiment, c'est une période très sombre et sur laquelle je n'ai pas de souvenirs précis. Sinon que cette pauvreté, elle s'est prolongée, évidemment, en raison de la guerre, en raison de la déportation de mon père, de son assassinat à Auschwitz, et du fait que ma mère a dû seule subvenir à ma survie.
Ouais. Vous avez, à propos de votre mère, une phrase qui m'a intrigué, qui est assez touchante, Georges Kiègemann. Vous écrivez « J'étais éloigné de ma mère par un mur invisible ».
Oui, parce que ma mère m'aimait sûrement. Je lui dois vraiment la vie sous tous ses aspects. Mais en même temps, elle n'avait pas les caractéristiques un peu classiques qu'on prête à l'amour maternel. Elle n'était pas tactique, elle n'était pas riche en mots tendres, même si elle en attendait de moi. Et donc, je dis toujours que j'ai vécu côte à côte avec elle plus qu'avec elle.
Vous avez vécu enfant, vous avez subi l'exode avec elle, vous êtes revenu à Belleville, à Paris, avec elle, en tête à tête, parce que votre père, évidemment, était loin. Vous expliquez que vous étiez séparés. Et votre père et votre mère qui avaient deux caractères totalement différents.
Oui, c'est-à-dire que ma mère avait forcément quelque chose de résigné parce qu'elle connaissait ses limites. Mon père était quelqu'un d'entreprenant, de solaire, de celui auquel on passait tout.
Oui. Et il y a eu cette période de la guerre. Vous avez quitté Paris, évidemment, vu le contexte, et vous êtes réfugié dans le Berry. Pourquoi le Berry ? Alors, c'est une région, une très belle région du centre de la France.
Mon père s'était engagé volontairement dans l'armée. Il en a été mobilisé assez vite en raison de son âge et de son état de santé. Mais enfin, il a été militaire français pendant quelques temps. Et les autorités de l'époque avaient décidé, alors que les Allemands s'approchaient de Paris, d'évacuer les familles de militaires. On ne nous a pas consulté sur la destination qui serait la nôtre. Et donc, un jour, on a été emmené par un train vers Saint-Amand-Montrond. De Saint-Amand-Montrond, on a été dispersés dans les campagnes alentours. Et c'est comme ça qu'avec ma mère et mes sœurs, on s'est retrouvés dans le hameau appelé Drulon d'une commune qui s'appelait Loye-sur-Ardon, qui était quelques centaines d'habitants. Et ce qui me permet, parce que je suis finalement resté très longtemps dans le Berry, de plaisanter parfois en disant « Nous, juifs berrichons, pensons que... » Mais quand même, quand j'ai eu une quinzaine d'années, j'ai eu envie quand même de renouer avec Paris, de renouer. D'ailleurs, ça ne voulait pas dire grand-chose de concret pour moi, mais c'était un rêve.
Alors, le retour à Paris s'est effectué et vous avez vécu à nouveau avec votre mère à Belleville.
Alors, en revenant à Paris en 1947, J'ai vécu avec ma mère dans ces quelques mètres carrés d'une pièce unique dans laquelle on avait déjà vécu quand j'étais enfant, qui était dans un hôtel de passe réaménagé en immeuble d'habitation, mais dénué de tout confort. C'était extrêmement rudimentaire. Et là, je vais vivre 4 ans en tête à tête avec ma mère, donc n'ayant jamais conversation vraie avec elle, sinon réduite aux plus simples choses de la vie pratique. Et étant le spectateur un peu désolé, et j'ai honte de le dire, le spectateur un peu honteux de sa manière de subvenir matériellement à nos besoins, j'avais l'impression d'étouffer un peu dans ces quelques mètres carrés.
Quel était votre état d'esprit à l'époque ? Parce que vous écrivez dans votre livre, Georges Kegeman, que je ne sais pas comment l'idée de faire du droit m'est venue. Est-ce qu'à cette époque-là, elle était déjà sous-jacente, cette idée, quand même ?
Non, le droit, d'abord, c'était un concept sûrement très, très abstrait pour moi quand j'étais lycéen. Je voudrais insister sur le fait que je ne me suis jamais senti revendicatif. Je n'ai à aucun moment de ma vie, même dans cette période d'adolescence difficile, été jaloux de qui que ce soit, de mes camarades de lycée. Il me semblait que les choses se déroulaient selon un rythme inéluctable.
Et ce rythme inéluctable, Georges Kegeman, vous a fait rencontrer beaucoup de gens. À la lecture de votre livre, on s'aperçoit que les rencontres ont joué un rôle déterminant.
Mais moi, je suis un chanceux. J'ai eu des camarades de lycée d'abord qui étaient de bons camarades. L'un d'eux qui devait mourir tragiquement, c'est jeune dans un accident d'avion, Raymond Hochwald, était adhérent d'un club de lecture. Donc là encore, par lui, j'ai fait la connaissance des romanciers américains, à commencer par Scott Fitzgerald. Ensuite, par lui qui avait un statut beaucoup plus confortable que le mien, je suis un petit peu sorti de ce qu'on pourrait appeler mon ghetto belvillois. Et on a rencontré des amis plus fortunés. Par eux, j'ai rencontré leurs parents. Leurs parents m'ont parfois pris sous leur protection. Et c'est à cette époque, alors que j'étais étudiant déjà, ayant passé les 2 baccalauréats de l'époque, que j'ai fait 1000 métiers, représentant maroquinerie pour le père d'une de mes amies, précepteur d'enfants d'immigrés arrivés en France.
Et cloueur de fourrure aussi.
Et cloueur de la fourrure, qui est mon métier, je dirais, le plus honorable, qui est un métier qui consiste à placer tous les 2 cm un clou sur une fourrure dont la peau est mouillée pour lui éviter de se rétrécir à nouveau après avoir été tendu.
Alors Georges Kegeman, à quel moment êtes-vous devenu avocat ? C'était dans les années 50. Hein,
Effectivement, je crois qu'en 1951, ayant les 2 parties du bac en poche, je me suis inscrit à la faculté de droit. Pourquoi la faculté de droit ? Je ne saurais pas le dire aujourd'hui. Vous savez, les vocations naissent parfois de choses très, très puériles. On devait dire, le petit Georges, il parle bien, il sera avocat, sans savoir vraiment ce qu'était un avocat. Ça m'a paru une voie toute naturelle.
Et vous avez aussi la chance de rencontrer de grands avocats qui vous ont guidé.
Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Le père d'une de mes amies, qui disposait de plusieurs magasins de confection, m'a engagé comme aide-comptable et précepteur de son fils. Il m'a pris en amitié et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le bureau d'un grand avocat qui était René Moiti, qui avait fait une très belle guerre, qui avait été président gaulliste du conseil municipal de Paris et à qui j'ai expliqué que, sans rien connaître du barreau, j'avais l'impression quand même de tout en connaître. Je dois dire que cette fatuité l'a amusé et je n'ai pas pu travailler effectivement tout d'abord chez René Moiti qui n'avait pas vraiment besoin d'un collaborateur de plus. J'ai été chez un autre de mes confrères moins glorieux mais plus actif et puis je suis revenu chez René Moiti qui finalement m'a employé avec satisfaction et m'a appris beaucoup de choses, en particulier une certaine forme d'autorité à l'égard des autres acteurs judiciaires, magistrats compris.
Alors la vie, le hasard, Georges Kegeman, je ne sais pas comment dire les choses, vous ont conduit à travailler dans le milieu de l'édition, dans le milieu du cinéma. Votre carrière s'est orientée vers ces secteurs-là.
Oui, ma vie ne s'est pas dessinée clairement tout de suite. Hein. Mais je rencontrais vraiment des gens qui me formaient, qui m'incitaient à aller plus loin de l'avant. Et donc, petit à petit, effectivement, surtout chez cet avocat Charlie Vinçard, où on faisait un peu de tout, on sautait dans un taxi à la dernière minute pour aller plaider dans une petite justice de paix ou pour rejoindre un cabinet d'instruction, j'ai appris le métier par la tête et par les pieds, ce qui est, à mon avis, absolument indispensable. Alors, j'ai fait mon service militaire. Comment est-ce qu'après mon retour du service militaire, j'en suis venu peu à peu être un avocat d'éditeur? Là encore, c'est une succession de hasards. Ma première épouse de l'époque était encore un peu étudiante et suivait, pour être reçue en propédeutique, les cours d'un garçon très, très intelligent et très charmant qui était Denis Huysmans, qui est surtout célèbre pour un manuel de philosophie dont il est le co-auteur. Et il venait d'être propulsé comme secrétaire général d'une société qui s'appelait la Société civile de l'édition littéraire. Il ne connaissait pas grand-chose au droit de la propriété intellectuelle et il m'a demandé d'être à ses côtés le conseil de cette société. Et là, les choses se sont un peu enchaînées. J'ai été remarqué par l'acuité de mes analyses, du moins je l'espère. Claude Gallimard m'a un jour fait un numéro de séduction comme on peut faire à un auteur qu'on veut recruter, ce qui était une grande chance pour moi. Et dans les années 60, très vite, je suis devenu le conseil et puis plus tard l'ami de Claude Gallimard et je suis resté 30 ans à agir notamment au sein des éditions Gallimard.
C'est l'époque où vous rencontrez la grande, heureuse homme, Françoise Giroud.
Oui, effectivement. Alors,
qui était la reine de Paris, comme vous dites.
Oui, effectivement. Alors, comment est-ce que je rencontre Françoise Giroud? Là encore, une succession de hasards. S'était formé à Paris un petit groupe dont la désignation peut aujourd'hui apparaître ridicule. C'était pendant la guerre d'Algérie. Il s'appelait le FACUIRA, c'est-à-dire le Front d'Action et de Coordination des Universitaires et Intellectuels pour un Rassemblement Antifasciste.
Toute une époque.
Alors, c'est toute une époque. Et dans ce FACUIRA, on trouvait des militants en rupture de banc du Parti communiste, des gens du PSU, il y avait là des Sartriens. Et quand il avait fallu nommer un secrétaire de ce FACUIRA, comme les tendances évidemment se disputaient, on avait pris celui qui était le moins marqué, le plus bêta peut-être, et c'était moi. Et en tant que secrétaire du FACUIRA, lorsqu'il y a eu une amnistie à la suite de la fin de la guerre d'Algérie, Henri Allègue, qui était l'auteur de La Question, oui, le livre qui avait révélé les tortures contre les militants favorables à l'indépendance en Algérie, a pu rentrer en France et on m'a demandé d'organiser pour lui une sorte de cocktail lui permettant de rencontrer des journalistes. Ce que j'ai fait, et François Giroud est venu à cette réunion, comme les gens de l'ancien observateur, il n'y avait pas encore de nouvel observateur, et elle m'a dit qu'elle était prête à faire un entretien avec Allègue à condition d'en avoir l'exclusivité.
Pour l'Express, évidemment.
Pour l'Express. C'est ce qui s'est passé, cet entretien a eu lieu, et on a un peu sympathisé, et de fil en aiguille, je l'ai invité à dîner, et on va dire que je suis devenu un de ses proches.
Il nous faut donc revenir un instant, Georges Kegeman, sur les femmes de votre vie. Vous avez eu comme épouse Marie-France Pisier. Vous avez été l'amie, un très bon ami de Simone Signoret.
Et oui, alors parmi les femmes, certaines ont été mes sœurs. Elles n'ont pas été.
C'est le cas de Simone Signoret, par exemple.
C'est le cas de Simone Signoret. Là aussi, je l'avais connue au cabinet de René Moiti. Je me suis occupé d'affaires familiales pour elle. C'était quelqu'un de totalement solaire et séduisant. Je suis rentré dans sa vie comme un petit frère et je n'en suis jamais sorti.
Donc, j'insiste sur le rôle de ces femmes. Vous écrivez, Georges Kegeman, « Rien ne vaut les émotions que j'ai pu ressentir en compagnie des femmes.
Ben, » je dirais que, me penchant maintenant sur mon passé, bien sûr, il m'arrive de songer encore aux affaires importantes que j'ai pu plaider, à leur signification, mais il est vrai que les souvenirs les plus prégnants, les souvenirs les plus doux, sont quand même liés à ma relation avec ces femmes.
Est-ce qu'il y a des affaires qui vous obsèdent encore? Vous le dites, vous racontez dans le livre, vous avez toujours en tête une affaire ou plusieurs affaires qui vous obsèdent.
Oui, il y a toujours des affaires qui reste en votre mémoire plus fortement. Pas forcément les affaires dont on a le plus parlé, hein, mais parmi les affaires dont on a le plus parlé, finalement, l'affaire Goldman a été une affaire très importante pour moi. D'abord parce qu'à tort ou à raison, on a considéré que j'avais joué un grand rôle dans son acquittement lors de son deuxième procès.
Alors, il faut rappeler qui était Pierre Goldman.
Alors, Pierre Goldman était un personnage très romanesque, je n'ose pas dire romantique, qui était à la fois un braqueur et un révolutionnaire. Oui. Il avait agi en Amérique latine, il était passé par Cuba, il était revenu en France, il était tombé dans une sorte de braconnage de droit commun, et on lui reprochait d'avoir tué deux pharmaciennes alors que précisément il aurait essayé de vider la caisse dans une pharmacie boulevard Richard Lenoir. Il avait été condamné à perpétuité une première fois, il avait échappé à la peine de mort, il avait obtenu la cassation de son procès, et donc l'affaire revenait pour être à nouveau jugée devant la cour d'assises d'Amiens. Et comme Goldman était un intellectuel, il considérait qu'il avait droit à un avocat qui ne soit pas un pénaliste classique. Et je n'étais pas un pénaliste classique, j'étais une sorte de civiliste égaré parfois au pénal. Et donc, il m'a demandé si je pouvais l'assister, je lui ai dit que oui, et je me suis trouvé comme ça son conseil, avec parfois des difficultés quand nos deux caractères se heurtaient. Et puis, dans les affaires dont j'ai gardé moi un très bon souvenir et dont on me parle rarement, le gouvernement américain, ma grande surprise, alors que j'étais le conseil de plusieurs intellectuels italiens très engagés, m'a demandé d'être le représentant et du gouvernement italien et de la veuve d'un diplomate américain, le colonel Ray, qui avait été assassiné par un petit groupe qui était les forces armées révolutionnaires libanaises. Et c'est un procès qui a duré une dizaine de jours.
Conduit par un certain Georges Ibrahim Abdallah.
Voilà. Lequel, pour le meilleur, pour le pire, et d'ailleurs plus de 30 ans après, toujours détenu aujourd'hui, après avoir été condamné à perpétuité, alors que son avocat, qui était Jacques Vergès, avait plaidé pour obtenir son acquittement. Donc je pense que là, effectivement, ma démonstration de sa culpabilité comme chef des FARL a été décisive. C'était un procès intéressant.
Terminons notre entretien, Georges Cageman, en parlant de Pierre Mendès-France et de François Mitterrand. On termine avec des hommes importants. Pierre Mendès-France, que vous avez rencontré grâce à François Giroud, précisément.
Effectivement, j'avais souvent eu l'occasion, dans le début des années 60, de dire à François Giroud combien j'avais été peiné par la défaite électorale de Pierre Mendès-France, qui avait emporté par la première vague gaulliste de 1958, et combien, au fond, j'aurais voulu, je ne savais pas par quel moyen, l'aider à l'occasion de la campagne électorale de 1962. Alors, François Giroud m'a dit, mais rien n'est plus simple, je vais vous prendre un rendez-vous avec lui. Et j'ai été effectivement le voir dans l'heure où il habitait, une sorte de grand pavillon de Meulière. Je l'ai trouvé derrière un petit bureau avec ses pantoufles déchirées par son chien, un homme extrêmement simple et chaleureux. Et je lui ai expliqué à quel point j'aurais aimé l'aider. Alors, il était un peu ironique et en même temps sympathique. Il m'a dit, écoutez, un seul de mes collaborateurs va habiter dans cette maison pour m'aider. La chambre à deux lits, si vous acceptez comme coéquipier, moi je suis d'accord. Et donc en 62, je suis rentré dans la vie de Pierre Mendès-France. Ça a été malheureusement un échec électoral, mais dans la vie de Pierre Mendès-France, je ne suis jamais sorti.
Qui restait une conscience,
Pierre Mendès-France. Alors Pierre Mendès-France est à la fois une conscience et un exemple de chaleur humaine, d'attention. Bon, sans faire de psychanalyse trop facile, il est certain qu'il a été pour moi un père de substitution, avec toute la dimension affective que ça suppose.
Il y a Pierre Mendès-France, donc Georges Cageman, et il y a un certain François Mitterrand que vous avez rencontré en 1968.
Alors François Mitterrand, c'est autre chose, parce que c'était un homme politique très, très différent de Pierre Mendès-France, beaucoup plus rompu à la politique politicienne, diront, mais un esprit brillant qui connaissait très bien français. Alors, il y avait entre les deux hommes une sorte de rivalité, peut-être de manière injuste. On considérait que l'éthique, c'était Pierre Mendès-France, le savoir-faire, c'était François Mitterrand. François Mitterrand, par une succession d'événements plus ou moins anecdotique, et avec la modestie qui était celui de mon rôle, ne devait pas m'aimer beaucoup. En 68, j'étais très proche de Pierre Mendès-France, et notamment j'avais déconseillé que les deux hommes se rendent sur les barricades d'étudiants. J'avais accompagné Pierre Mendès-France à Charletti. Par la suite, dans ma période qu'on appellera intellectuellement gauchiste, où j'étais très admiratif de Foucault, de Deleuze, de Guattari, j'avais écrit un article très violent contre le secrétaire du Parti socialiste de l'époque, François Mitterrand, quand le parti n'avait rien fait pour venir au secours de Klaus Croissant, l'avocat des extrémistes allemands qui avait été expulsé, peut-être pas sans raison. Enfin bon, il n'avait aucune raison de me trouver sympathique. Pour lui, j'étais quand même trop lié à Pierre Mendès-France, et même un personnage assez secondaire comme moi, il l'avait dans sa mémoire. Et puis, quand Pierre Mendès-France est mort en 82, Jacques Lang m'a demandé de faire un projet de discours pour l'hommage qui serait rendu à Mendès-France par Mitterrand dans la cour de l'Assemblée nationale. Et là, j'étais aux côtés de Marie-Claire, la deuxième épouse de Pierre Mendès-France. Et à ma grande surprise, Mitterrand est venu me remercier. Et je dis à ma grande surprise, parce qu'il ne venait pas à l'idée que Jacques Lang lui dirait que j'avais participé à la rédaction de ce discours. Puis des années ont passé, et comme la plupart de ses amis proches, Roland Dumas, Robert Badinter, étaient pris par des fonctions ministérielles ou constitutionnelles, et que les avocats dits de gauche, de la gauche non communiste, n'étaient pas si nombreux, eh bien, il est venu vers moi, était apparemment satisfait, il faut le dire, des choses dont je me suis occupé pour lui. Et après beaucoup de méfiance, de contact, même de dîner chez moi, après s'être assuré que vraiment, avec moi, aucun ennui sur le plan de l'honorabilité ne pouvait surgir, voilà, il m'a rapproché de ce qu'on pourrait appeler sa garde intime.
Alors vous avez été ministre sous Mitterrand, il ne pouvait pas vous nommer, disait-il, ministre de plein exercice parce que vous n'étiez pas socialiste, mais vous avez été ministre délégué trois fois dans des domaines différents, justice, communication, affaires étrangères. Ce n'est pas le meilleur souvenir que vous gardiez de votre vie publique.
Non. À la fois, je ne le regrette pas parce que avoir été ministre, même délégué, c'est avoir une expérience des grands problèmes qu'on n'a pas évidemment de l'extérieur. Par contre, je crois que même ministre titulaire, les ministres ont des moyens très limités, parce que d'abord, ces moyens dépendent des budgets qu'on leur alloue, dépendent du soutien que leur apporte ou ne leur apporte pas le président de la République. Je crois que ceux qui ont vraiment une marge de manœuvre, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est le ministre des Finances, mais que les autres, ils sont dans un état de négociation obligatoire sans cesse. Et donc, j'ai accepté parfois cette moquerie de dire qu'Hirschman est un grand avocat, il a accepté de devenir un petit ministre. Encore une fois, je ne regrette pas parce que c'est une expérience vraiment très très riche pour moi, mais j'admets que je n'ai pas fait beaucoup changer la société française alors que j'étais ministre.
Et c'est même un souvenir douloureux pour vous, parce que vous racontez que quand vous étiez ministre délégué à la justice, Il y a eu la fameuse affaire Bousquet, la révélation de ce qu'avait fait René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, un des responsables de la rafle du Veldiv. Ça reste un souvenir douloureux pour vous, il faut rappeler pourquoi.
Ah oui, ça c'est une histoire qui m'a beaucoup blessé. Quand j'étais ministre délégué à la justice, se poursuivait une procédure contre René Bousquet qui avait été le responsable des rafles de juillet 42 à Paris. Mais je n'étais pas chargé de l'action publique, donc je ne suivais pas le dossier Bousquet. Et puis un jour, en rentrant d'un meeting, un journaliste de Libération auquel j'avais accordé un entretien sur mes projets de réforme m'a dit que le lendemain, lundi, paraîtrait cet entretien, mais paraîtrait également dans le journal un entretien de Serge Larsfeld avec une journaliste, Annette Lévy-Villard, où il avait eu cette formule prenante. On a fait venir à la chancellerie un fils de déporté juif pour juger Barbie, c'était Robert Badinter. On en a fait venir un autre pour ne pas juger Bousquet, et c'est Georges Hirschman.
Phrase terrible.
phrase terrible et je ne comprenais rien. Et au lieu d'admettre que je ne comprenais rien et que je ne voyais pas le problème, j'ai prononcé, à la demande de ce journaliste de Libé, quelques phrases un peu en figurique, un peu langue de bois, sur le fait que le procès de Bousquet n'était peut-être pas la manière la plus efficace de revenir sur l'ignominie du passé. Enfin, je regrette un peu cette phrase et j'aurais mieux fait de m'abstenir de tout, puisque je ne connaissais pas le problème. Le problème était d'ailleurs assez simple, on ne va pas s'y étendre aujourd'hui. C'était un problème de pure procédure, destiné non pas à gagner du temps, mais au contraire à éviter d'en perdre, comme Bousquet serait jugé. Enfin, cette histoire m'a évidemment beaucoup peiné. Ma sœur était une rescapée, une des 2500 rescapées de la déportation. Elle a cru que j'avais vraiment aidé Bousquet. Enfin, pour moi, ça a été une très, très, très sale histoire.
Georges Cagemann, vous dites, vous avez une phrase qui est intrigante, il y en a quelques-unes dans le livre, vous dites que être avocat et être de gauche, c'est une contradiction permanente. Pour quelle raison ?
Oui, une contradiction est peut-être un mot très fort, mais ça pose quand même un problème. Alors, je m'explique assez facilement. Être de gauche, c'est reconnaître la prééminence de l'intérêt commun. Et qu'on le veuille ou non, l'intérêt commun, il est protégé par les institutions, c'est-à-dire par l'État et par ce qui en découle. Tandis que être avocat, c'est s'attacher à l'intérêt d'un individu et d'un individu confronté, lui, à la toute-puissance de l'État. Donc, vous êtes effectivement dans un nœud de contradiction. À la fois, vous défendez un individu contre la toute-puissance de l'État et vous ne mettez pas en cause la légitimité de cet État. Pour quelqu'un comme Jacques Vergès, c'était facile parce qu'il mettait en cause la légitimité même de l'État. Mais moi, j'étais à la fois un vrai républicain et en même temps quelqu'un de convaincu que les individus isolés, seuls face à l'État, avaient besoin d'un défenseur.
Quand on se penche sur votre parcours, on ne peut pas s'empêcher de dire, mais quel parcours, justement ? Quelle vie ?
Écoutez, je ne voudrais pas jouer les faux modestes, mais cette vie, est-ce qu'elle s'est imposée à moi ou est-ce que je l'ai créée ? Je pense qu'elle s'est imposée à moi. Je pense qu'effectivement, il faut une certaine volonté pour franchir les difficultés d'origine, mais je pense que ces difficultés, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui encore, peuvent les franchir.
C'était aussi un peu le sens de ma question. Il y a sans doute des exemples à prendre dans votre parcours. Pour ces jeunes gens qui n'ont rien au départ.
Les situations ne sont jamais les mêmes. Par exemple, aujourd'hui, le concept de transfuge de classe est à la mode. Ces transfuges de classe, ils peuvent avoir des problèmes très différents. Quelqu'un comme celui qui a écrit ce beau livre, La fin d'Eddie Bellegueule, Édouard Louis, ou bien les jeunes gens des banlieues n'ont pas les mêmes genres de problèmes que moi. D'abord, moi, par exemple, il n'y avait aucune amertume à l'égard de la France, alors que les enfants de travailleurs immigrés laissés dans un certain abandon ou les fils de harkis peuvent avoir cette amertume, moi pas du tout. Je n'avais pas non plus cette charge d'une particularité comme par exemple l'homosexualité dans un petit village comme Édouard Louis, non. Moi, dans mon petit milieu, on était pauvres, mais tout naturellement conduit à être reconnaissant envers la France. Bon, il y a eu cette parenthèse tragique et de l'État dit français, mais sinon, bien sûr, il y avait cet amour de la France. Alors, chacun doit affronter des difficultés différentes, mais je pense que chacun, grâce notamment aux enseignants français, je suis de ceux qui regrettent l'amoindrissement de leur statut, chacun, par la culture, par le savoir, par l'acharnement, et peut-être aussi par l'amour des autres, tout simplement, sans tomber dans une paraphrase chrétienne, chacun peut arriver à améliorer son sort.
L'avocat Georges Cagemann, donc chez lui à Paris, dans ce numéro du magazine Idée. Il a écrit avec Vanessa Schneider, L'homme qui voulait être aimé, un récit publié chez Grasset. Idée enregistrée et réalisée par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Mais dans un court instant, c'est le football qui va être à l'honneur sur RFI avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors dans un instant, nous allons rejoindre nos envoyés spéciaux et que le meilleur gagne.